Raphaël Girardin.
Bonjour. TransN affronte des difficultés financières. Des réflexions sont en cours pour trouver des pistes d'économie au sein de la société de transport public. D'ici l'été prochain, une augmentation de capital est discutée avec les collectivités publiques. On skie dès cet après-midi dans les montagnes neuchâteloises, dans trois secteurs. On fait le point en direct dans ce journal depuis la Corbatière. Le NUC retrouve l'Europe. Le club de volleyball neuchâtelois lance sa campagne en CEV Cup ce soir face aux Slovènes du Nova Branik et de Maribor. Ce déplacement sera le premier de la jeune Libera Caroline Delay. Le soleil va continuer de briller cet après-midi avant retour des nuages en fin de journée. Une couverture nuageuse qui devrait amener de fréquentes chutes de neige cette nuit et ce jusqu'en pleine. Les températures indiqueront un maximum de 4 degrés à basse altitude et 0 à 1000 mètres. Situation financière difficile chez TransN. Le budget 2024 prévoit un déficit de 2,7 millions de francs pour des charges d'environ 120 millions. En 2022, déjà, la société avait bouclé sur une perte de 1,2 million de francs. Les causes sont diverses. La crise sanitaire a affaibli la compagnie et entraîné une diminution considérable des réserves. Les recettes sont en recul et les dépenses sont aujourd'hui plus importantes que prévues en raison de facteurs externes. Une période qualifiée d'inquiétante, mais la direction et le conseil d'administration de l'entreprise de transport public indiquent prendre le taureau par les cornes. Un audit externe a été commandé et deux groupes de travail sont mis sur pied afin de proposer des pistes d'économie d'ici l'été prochain. Cela pourrait passer par une recapitalisation, comme l'explique le président du conseil d'administration de TransN, Raphaël Comte.
Alors, c'est les choses qui sont discutées très ouvertement avec les collectivités publiques. C'est vrai qu'on a un capital social qui est bas, eu égard aussi au fait qu'on a énormément d'investissements. Donc, pour le type d'entreprise que nous sommes, on a un capital social qui est bas et qui fait aussi que, du coup, on a des possibilités de faire des déficits qui sont relativement limités. On doit faire attention, on est soumis au code des obligations, donc on doit très rapidement rétablir la situation financière, anticiper pour éviter de se trouver dans des situations qui soient compliquées. Donc une recapitalisation, c'est possible, les transports publics fribourgeois le font, c'est une piste parmi d'autres. Je pense qu'à la fin, il y aura plutôt un florilège de mesures, plusieurs mesures qui devront être mises en œuvre à différents niveaux, au niveau des recettes, au niveau des dépenses, et peut-être que la recapitalisation sera un des aspects, mais on attendra les conclusions définitives pour prendre position définitivement.
Un sujet proposé par Adrien Juvet, dossier complet sur la situation financière de TransN à retrouver sur rtn.ch. C'est le début de la saison de ski alpin dans les montagnes neuchâteloises. La neige tombée ces derniers jours a permis l'ouverture cet après-midi de plusieurs installations dans la région. Sur le bulletin d'enneigement, c'est feu vert à la Corbatière, au Bugnonnais, Savanières et aux Loges. Et c'est dans la vallée de la Sagne, au pied du téléski de la Corbatière, que vous vous trouvez, Claire Viget.
Oui, en effet, et ça va être un après-midi idéal pour chausser une première fois les lattes. La neige et le soleil sont au rendez-vous. La piste de la Corba est prête, hein, je suis à son pied. Et les premiers skieurs sont attendus à 13h ou à partir de 13h. Et j'ai à mes côtés le vice-président des téléskis Corbatière Rochaucroix, Adrien Bondré, bonjour.
Bonjour.
Alors, ça y est, c'est le début de la saison, l'ouverture des pistes, une ouverture des pistes le 29 novembre. Est-ce que c'est exceptionnellement tôt ?
C'est assez exceptionnel, on a un peu fait les archives ce matin. La dernière fois qu'on a pu ouvrir au mois de novembre, c'était il y a tout juste 10 ans.
Alors, ouvrir, c'est un gros travail peut-être pour être prêt cet après-midi ?
Ouais, c'était pas mal de travail, notamment au niveau du baby lift où on a changé toute la commande électrique cet été et on a reçu les dernières pièces ce matin. Donc c'était un petit challenge, mais c'est bon.
Mais tout s'est déroulé en très peu de temps. Quand vous m'avez expliqué, ça a démarré hier et puis ce matin encore.
Ouais, bah c'est clair. Hier, on a pris la décision de faire le pari d'ouvrir. Il faut préparer toutes les pistes, mettre les balisages, préparer la caisse, etc. Donc c'était un bon challenge.
Et puis à 5h ce matin, la dameuse est encore passée.
C'est ça. Hier, un premier roulage des pistes et puis ce matin, la dameuse pour faire tout beau, tout propre.
Alors, est-ce que d'ouvrir dans des conditions idéales comme ça, hein, grand soleil, pas un peu de vent, comme on dit par ici, 3 degrés, moins 3 degrés au thermomètre, est-ce que ces conditions, ça favorise la vente d'abonnements ?
Oui, c'est vrai qu'on voit un bel engouement depuis hier. On a eu pas mal de nouvelles commandes. On a notre offre d'avant-saison à prix cassé. Et puis, on voit que la neige motive les gens à faire la décision de prendre un abonnement de saison.
Alors vous avez pris le pari d'ouvrir, il y a aussi la volonté de motiver les gens à venir.
Ben c'est clair, c'est un pari avec la météo de demain, de vendredi, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais voilà, dans des conditions idéales comme ça, on a dit on ne peut pas ne pas le faire. Et puis oui, ça motive les gens à prendre l'abonnement de saison, ça motive les gens à s'équiper. C'est clair que pour nous, si on peut ouvrir, on va le faire en début de saison.
Puis pendant que vous parliez, on a un skieur qui est passé, donc on voit que ça skie déjà, même si les installations ne sont pas encore tout à fait ouvertes. Alors on le voit, un gros investissement de temps, on ne sait pas la météo ce qu'elle va nous donner, pour le moment on parle de pluie, est-ce que ça vaut vraiment la peine peut-être au niveau financier de mettre toute cette énergie pour peut-être une seule journée?
C'est difficile à dire, c'est un pari qu'on a pris hier, c'est incertain pour demain. Si demain ça tourne en neige, on peut ouvrir ce week-end, ce sera un pari gagnant. Aujourd'hui, on voit avec la météo que c'est à moitié un pari gagnant, mais c'est clair que si tout est détruit demain, ça aurait été la mauvaise décision.
Et puis, vous avez aussi vu sur les réseaux sociaux qu'il y a quand même un certain engouement.
Oui, ben c'est clair. Quand on communique une ouverture, on voit que c'est relayé par les médias locaux. C'est repartagé, il y a un engouement, il y a du monde qui voit ça. C'est aussi ça qui motive les gens à avoir l'abonnement de saison, c'est la visibilité, le lien direct pour le commander. Et puis voilà, ça aide, c'est clair que ça aide.
Adrien Bondret, je rappelle que vous êtes donc le vice-président des téléskis de la Corbatière et de la Roche-aux-Crocs. Merci d'avoir pris le temps de nous recevoir. Et puis ben voilà, les installations, vos installations hein, et les pistes attendent les skieurs cet après-midi entre 13h et 16h30.
Merci Claire, et on rappelle que les petits téléskis des Bugnonnais-Savanières et celui aux Loges sont également ouverts. Le volet suisse du projet Fontes a été dévoilé au public hier à Neuchâtel. Les archives d'État de Neuchâtel et de Fribourg, les archives de la ville, l'Université de Genève et l'Institut Arthur Piaget sont impliqués dans ce projet d'ampleur européenne. Il est né d'une observation de plusieurs chercheurs en histoire. Depuis une vingtaine d'années, des milliers de sources anciennes du droit sont facilement accessibles pour tout un chacun. Pourtant, peu de personnes savent exploiter correctement ce matériau, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses, selon Adrien Wiesbrot, membre de l'équipe suisse du projet Fontes.
Le projet Fontes s'est intéressé uniquement aux sources juridiques. Et en fait, ces sources juridiques, elles nous paraissent très très anciennes, mais c'est véritablement le fondement de notre société, le fondement de notre démocratie. Et quand on commence de les analyser, de mal les comprendre et de trop les confier à certaines machines, eh bien pour nous, ça devient très inquiétant.
Quelles sont les solutions que vous mettez en avant pour les résoudre, les outils utilisés, si je puis dire?
Dans le projet Fontes, on a eu deux volets. Le premier, c'était de faire une série de vidéos pour donner envie aux jeunes chercheurs de se replonger dans des sources, leur montrer qu'elles sont accessibles, qu'elles sont intéressantes, que c'est passionnant de vraiment se plonger dans la source plutôt que simplement à une transcription. Et puis, dans un deuxième volet, on a décidé de leur donner aussi des outils. Donc, on est en train de développer un manuel de paléographie. Il en existe déjà beaucoup, mais ils sont pour la plupart très anciens. Et là, on a fait un nouveau manuel spécialement sur les sources juridiques qui devrait leur donner aussi les outils pour vraiment interpréter ces sources aujourd'hui.
Adrien Wiesbrot était l'invité de Damien Piscopiello dans la matinale. Son entretien est à retrouver en intégralité et en vidéo sur rtn.ch. Un homme a été condamné ce matin à 20 ans de prison par le tribunal de Bienne pour l'assassinat de son épouse. Il avait poignardé sa victime à 165 reprises en présence des 5 enfants du couple. Il avait agi par jalousie après que sa femme lui avait signifié vouloir se séparer. Les faits s'étaient produits dans un hébergement pour requérants d'asile à Buren an der Aare en 2022. La prévoyance vieillesse préoccupe peu les personnes en âge de travailler. Une étude de l'assureur Swiss Life montre que 37% des femmes et 41% des hommes s'inquiètent des conséquences de leur taux d'occupation sur leur future retraite, alors que cet élément est déterminant. Aujourd'hui, les femmes retraitées touchent un tiers de rente en moins que les hommes parce qu'elles ont moins cotisé et cet écart devrait persister, confirme l'étude de Swiss Life, les précisions de notre correspondante à Berne, Marie Vieumier.
Le taux d'occupation des femmes a tendance à augmenter depuis les années 90, mais elles sont toujours bien plus nombreuses que les hommes à prévoir une diminution de leur temps de travail lors de la naissance d'un enfant, notamment parce que leur salaire est souvent moins élevé et parce que les places en crèche sont rares et chères. L'étude révèle aussi que les couples se préoccupent peu des conséquences d'une séparation sur leur prévoyance vieillesse. Pourtant, les rentes des femmes divorcées sont 15% plus basses que celles des hommes divorcés. Et la situation est particulièrement inquiétante pour les femmes en concubinage, indique Swiss Life. Le nombre de couples non mariés avec enfants a doublé en 10 ans. Mais les mères en concubinage travaillent en moyenne à un taux de 60% contre 90% pour leurs conjoints. Et si elles se séparent, leur prévoyance vieillesse est bien moins couverte que si elles étaient mariées. Une prévoyance privée et des accords contractuels pourraient limiter ce risque. Mais l'étude montre que, mariés ou non, peu de couples se penchent de manière approfondie sur ces questions.
Et à l'international, le mouvement islamiste Hamas serait d'accord pour prolonger la trêve avec Israël de 4 jours. C'est ce qu'a indiqué une source proche du mouvement ce matin à l'AFP. L'accord d'échange entre otages israéliens et prisonniers palestiniens est censé prendre fin demain matin.
12h26. Sport.
Le NUC, prêt à vivre de nouvelles émotions en Coupe d'Europe. Le club neuchâtelois se déplace ce soir en Slovénie pour lancer sa saison européenne face au Nova Branik de Maribor. Les deux équipes débarquent en CEV Cup. Elles avaient pu éviter les 16e de finale lors du tirage au sort en obtenant un des tickets qui les qualifiait directement pour les 8e de finale. Difficile donc de faire un pronostic avant la rencontre. Cependant, le NUC n'est pas en confiance. Les neuchâteloises se sont inclinées 3-0 en championnat face à Kanty samedi dernier. Mais pour sa jeune Libera, Caroline Delay, la Coupe d'Europe, c'est une autre histoire.
Moi, en tout cas, personnellement, j'arrive bien à séparer le championnat et la Coupe d'Europe. Je ne pense pas que ça va impacter notre jeu. C'est totalement différent, c'est une ambiance, il y a le voyage. Je pense qu'on aura vite oublié le match de ce week-end en voyant tout ce qui nous arrive.
Caroline Delay vit justement des moments forts dans sa jeune carrière. La Libera de 18 ans a été propulsée au rang de numéro 1 suite à la blessure de Fabiana Motis. Depuis, Caroline Delay mène une double vie entre les terrains de Liga et les bancs du gymnase, une situation à laquelle la jeune femme s'acclimate bien.
Au niveau de la pré-saison, c'était un peu compliqué d'endosser ce nouveau rôle qui m'a un peu arrivé dessus comme ça. Mais j'ai vraiment été aidée de tous les côtés, que ce soit par le staff, par mes coéquipières. Honnêtement, je pensais avoir plus de peine à trouver ma place ou comme ça dans le terrain. Oui, il y a le stress de devoir un peu prouver, de montrer parce que c'est le NUC, etc. Mais honnêtement, c'est pas si oppressant que ça. On ressent pas forcément toujours la pression et ouais, je m'attendais à pire. Franchement, je suis contente de ce début de saison.
Caroline Delay au micro de Lidiane Gena. Les volleyeuses du NUC se frotteront donc aux Slovènes du Nova Branik de Maribor ce soir à 19h dans le cadre des 8e de finale aller de la CEV Cup. La Coupe de Suisse au programme des basketteurs d'Union Neuchâtel. Les protégés de Mitar Trivunovic sont attendus à 19h30 au Tessin par Lugano dans le cadre des 8e de finale de la compétition. Le coach unioniste disposera d'un effectif complet à l'exception du jeune Nicolas Damianovic qui souffre d'une entorse. Thomas Salman figure en revanche sur la feuille de match après une longue absence. Et puis en football, la neige a été déblayée sur le terrain de la Charrière à La Chaux-de-Fonds. Renvoyée samedi, la rencontre entre le FCC et la Sarah Eclépan devrait donc bien avoir lieu ce soir sur le coup de 20h15, à moins que les conditions météorologiques ne se détériorent à nouveau. Au classement de la Première Ligue, le FC La Chaux-de-Fonds occupe le 9e rang, mais en cas de succès dans ce match en retard face à l'avant-dernier du championnat, il pourrait remonter à la 6e place. Très bon appétit.